Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Serge Trigano, un nom devenu le synonyme du mot vacances. Serge, son père, en effet, a créé le Club Med. Et comment son fils a-t-il assuré la relève? Et dans quelles circonstances l'aventure s'est-elle brutalement achevée? Comment a-t-il rebondi? Il le raconte dans un livre. Ses souvenirs, ainsi que beaucoup d'autres, tout de suite, dans ses clés d'une vie, sur Sud Radio. Bonjour Serge Trigano.
Bonjour Jacques Pessis.
Alors, vous racontez effectivement la saga Trigano qu'on va évoquer tout au long de l'émission à travers Trigano Loves You, un livre chez Albin Michel. Et puis le principe de l'émission, c'est de vous raconter, de raconter votre famille à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, ça vous dira sans doute quelque chose, c'est le 27 avril 1950.
Oui, c'est le moment où on dépose les statuts du Club Méditerranée.
Oui, c'est ça. Parce que je crois qu'en 1949, tout est parti d'un ancien champion de waterpolo qui s'appelait Gérard Blitz.
Exactement. La guerre est finie, les gens ont envie de vivre, de faire la fête, de se retrouver. Et un certain nombre d'hommes et de femmes pensent à se réinventer, à revivre. Et donc, il y a cette idée des villages de vacances. Et Gérard Blitz a l'idée, après avoir passé un séjour à Calvi, dans un autre village de vacances, de déposer l'idée du Club Méditerranée et les statuts du club.
Voilà. Et il se trouve qu'un jour, il a besoin de tente de camping, il n'a pas d'argent, et il va dans un magasin, il appelle un numéro, et il tombe sur votre père, et tout va très bien se passer. Votre père, Gilbert Trigano.
Ça, c'est le miracle de l'histoire, parce qu'effectivement, quand Gérard cherche un fournisseur de matériel de camping, il trouve le nom Trigano père et fils, et il se dit, une famille, c'est plutôt mieux qu'une société anonyme. Il téléphone et il tombe sur Gilbert. Il commence à raconter à Gilbert ce qu'il a envie de faire, et Gilbert lui dit, ben, venez me voir, avenue Jean Jaurès, dans nos bureaux. Et c'est le début de l'aventure.
Alors, il se trouve que votre père et votre grand-père fabriquaient des tentes de camping avec des restes de toiles oubliées par les Américains après la guerre.
Les surplus de l'armée américaine, exactement, les bâches des surplus de l'armée américaine. Et c'est comme ça, à la suite d'une visite d'une dame qui rentre dans le magasin alors qu'on ne vendait que des bâches et qui demande s'il n'y a pas un lieu pour héberger une tente. Et donc, ils ont l'idée de fabriquer des tentes de camping et c'est comme ça que l'aventure a démarré.
Ça s'appelait les Triganettes,
absolument.
Je crois.
Absolument.
Alors, votre père, Gilbert Trigano, est né à Saint-Maurice, ville très connue parce qu'elle est près de Paris. Et surtout, on a tourné plusieurs films, parmi lesquels Les Diaboliques, Quai des Orfèvres, La Folie des Grandeurs et La Traversée de Paris. Et donc, votre père est né là. Et je crois qu'au départ, votre grand-père avait une usine de torréfaction de café et que ça s'est mal terminé.
Oui, la légende veut que mon père était très, très malade. Et mon grand-père fait une espèce de prière en invoquant Dieu, en disant « Dieu, reprenez-moi tout, mais sauvez mon fils ». Et Gilbert est sauvé, miraculeusement, et quelques jours plus tard, son usine de café brûle et il repart à zéro, il est ruiné.
Il fait du savon de Marseille et d'autres choses ensuite. Et Gilbert, donc votre père, lui, travaille très bien à l'école, surtout en calcul mental apparemment.
Ah, Gilbert avait une capacité à faire des calculs quand il négociait avec des hommes d'affaires. Il était capable d'imaginer le loyer sur les 20 ans qui viennent avant que le gars ait commencé à faire marcher sa calculette. Donc ça lui donnait un avantage assez fort.
Et puis donc il arrête ses études en troisième parce que je crois qu'il veut faire du théâtre.
Mon père était fasciné par le théâtre, il rêvait de faire du théâtre et donc il a essayé de commencer une carrière d'art dramatique qui ne s'est pas passée exactement comme il le rêvait.
Enfin, il a quand même connu des débutants qui sont devenus célèbres. Il y a une photo dans votre livre d'ailleurs, Serge Trigano. Et Gilbert Trigano lui a connu Daniel Gélin, Jean Carmet et un certain Serge Reggiani.
Hôtel des voyageurs, chambre synthèse, vue sur jardin. Et tous les soirs, monsieur Machin...
Alors, il se trouve que Serge Reggiani et Gilbert Trigano, votre père, Serge Trigano, ont un point commun. Ils ont arrêté tous les deux l'école en troisième. Et Serge Reggiani a quitté l'école parce qu'il a été viré, parce que les professeurs ne supportaient plus qu'ils lisent des pièces de théâtre pendant les cours au lieu d'écouter le professeur.
Ça, je savais pas.
Alors, donc, votre père commence dans le théâtre. Il écrit même des sketchs pour des chansonniers, oui. Dont Roméo Carles, qui a été, dans les années 50, un pensionnaire des Deux Ânes. On a totalement oublié ces sketchs.
Oui, mais bon, je crois que ça marchait bien. D'ailleurs, j'avais appris qu'il avait été plutôt bien payé pour ces sketchs. Donc, il avait un certain sens de l'humour, contrairement à ce que certaines mauvaises langues pouvaient penser.
Voilà. Mais en même temps, ça n'a pas duré longtemps. Je crois qu'il s'est installé dans une station balnéaire de la Somme, le Crotoy.
Exactement.
C'est-à-dire pour faire...
Il était parti, je crois, là, quelques temps en vacances parce qu'il avait fait gagner un peu d'argent à l'affaire de son père, qui lui avait donné un peu de sous. Et donc, il est parti dans cette ville où je crois qu'il y avait toute une troupe de comédiens et que ça lui a permis de faire des connaissances.
Voilà. Et ensuite, Gilbert Trigano a innové avec des choses qu'on connaît aujourd'hui partout, mais personne ne l'avait fait avant lui. Il a livré à domicile et il a ouvert le lundi son magasin de la rue Rennequin à Paris.
Absolument. C'est quelqu'un qui avait le sens du commerce et qui s'est dit qu'il faut prendre le contre-pied de ce que font les autres et entre autres d'ouvrir le lundi, ce qui a fait exploser les ventes de la petite affaire de mon grand-père.
C'est-à-dire que finalement, personne n'y avait pensé avant.
C'est en curieux. Tout cas, personne ne l'avait fait.
Ouais, et depuis, tout le monde le fait maintenant, aujourd'hui. Et la livraison à domicile, il a fait Amazon avant la lettre.
Absolument, hein. Oui. On aurait dû déposer l'idée.
Je pense. Et puis, il a quand même pris des cours de théâtre chez Raymond Rouleau chez Fernand Ledoux au Théâtre Pigalle. C'est-à-dire qu'au dernier étage, Pierre Dux, Fernand Ledoux, qui était un comédien célèbre, dont l'arrière-grand-père était le cocher de Napoléon Ier, je ne sais pas si vous le savez, et Raymond Rouleau, autre comédien belge célèbre, avait ouvert un cours. Et ça l'a passionné, je crois, votre père.
Mon père était passionné par, effectivement, il souhaitait faire une carrière dans le théâtre. Ça ne s'est pas passé comme ça, mais oui, il était passionné par cette partie de cette vie.
Et puis, il y a eu la guerre. Alors la guerre, je sais, Serge Trigano, que Gilbert Trigano vous en a un peu parlé, mais qu'il a fait des actes de résistance.
Oui, c'est pas qu'il a peu parlé, c'est qu'il n'en a pas parlé du tout, et qu'on a appris effectivement au fur et à mesure qu'il était avec un de ses frères dans la résistance et qu'ils avaient fait un certain nombre de choses assez formidables.
C'est-à-dire qu'il s'était réfugié à Mazères d'abord et à Pamiers ensuite.
Exactement.
Et qu'est-ce qu'il a fait exactement ? C'est-à-dire est-ce que vous avez pu vraiment
reconstruire ? Je crois qu'il faisait des actes de sabotage, j'ai cru comprendre.
Et puis je crois qu'un jour il a fui et il a passé des mois dans un appartement sans chauffage en plein hiver.
Sans chauffage et sans nourriture pratiquement, ce qui fait que mon père était obsédé à l'idée de manquer de manger. Et tous les soirs, avant de se coucher, il fallait qu'on lui apporte un petit quelque chose sur la table de nuit pour qu'il soit sûr de pouvoir grignoter quelque chose dans la nuit. C'était un côté obsessionnel chez lui.
Oui, remarquez, c'était aussi le côté obsessionnel chez Léon Zitrone, qui lui allait voir son réfrigérateur à 3h du matin, à tel point qu'un jour sa femme a mis un cadenas avec une clé pour l'empêcher de dévorer la nuit.
Là, je connaissais pas.
Et puis, il a ensuite travaillé comme journaliste à l'Humanité, Gilbert Trigano. C'est assez inattendu.
Oui, vous savez, je crois que le Parti communiste avait accueilli un certain nombre de gens, dont les gens de confession juive, pendant la guerre. Et donc, mon père était assez reconnaissant. Il n'a jamais fait partie jamais eu sa carte au parti. Mais oui, il a collaboré avec eux, il a travaillé avec eux. Il a monté une grande soirée, une grande journée au Veldiv. Et ça a fait partie des grands moments de sa vie.
Et c'était important pour lui de défendre ses idées toute sa vie, en dépit du fait qu'il était une des plus grosses fortunes de France à une époque, il a défendu ses idées communistes.
Oui, enfin, mon père était viscéralement un homme de gauche, communiste peut-être pas, mais en tout cas socialiste certainement. Il a soutenu la candidature de Mitterrand pendant la première élection. Et voilà, donc ça fait partie, et d'ailleurs on le retrouve dans sa façon de répartir les profits de la société, ainsi de suite.
Oui, c'est-à-dire qu'il l'a réparti entre ses collaborateurs.
Absolument.
Ce qui est rare.
Ce qui est assez rare. Edmond Rothschild lui avait accordé 4% des résultats à l'époque où le club gagnait pas d'argent, donc Edmond s'était dit, ça ne me coûtera rien. Puis le club s'est mis à gagner beaucoup d'argent. Et Gilbert s'est dit qu'il ne pouvait pas garder les 4% pour lui. Donc il en a gardé un pour lui et réparti les 3 autres pourcents sur l'ensemble des hommes et des femmes du club.
Et finalement, ces années de journalisme l'ont conduit vers autre chose. Parce qu'il aurait pu rester journaliste. Il a commencé à travailler en famille chez Trigano.
Absolument. Je crois que dans l'âme, c'était un entrepreneur, c'était un commerçant. Voilà. Donc, le journaliste, ça l'a amusé un certain temps, comme le théâtre. Mais il avait envie de gagner sa vie, de pouvoir offrir à ma maman un cadre de vie décent. Et c'est pas dans les métiers de journaliste qu'on peut faire fortune. Et donc, il a décidé de travailler dans l'entreprise familiale et après de travailler au Club Méditerranée avec Gérard Blitz.
Voilà, ça, on va en parler après. Mais cette entreprise familiale, elle est née comment ? Bon, après
Elle est née, encore une fois, dans les années 50, juste après la guerre, en rachetant ces fameux surplus des bâches de l'armée américaine et en montant ce matériel de camping. 36, les congés payés, les gens commençaient à partir en vacances et le camping a été une formule formidable pour avoir accès à des tas de gens au bord de mer, et donc l'affaire Trigano s'est développée avec cette explosion des vacances et des congés payés.
Et puis le slogan, le camping, c'est Trigano.
Absolument.
Ça, c'est aussi votre père.
C'est mon père qui l'a trouvé, c'est une simplicité biblique et ça a très bien fonctionné.
Mais aujourd'hui encore, on dit le camping, c'est Trigano sans savoir d'où ça vient.
Absolument, tout à fait.
Et ça fait partie des souvenirs familiaux. Il y a beaucoup d'autres souvenirs aussi dans ce livre, on va en parler dans quelques instants, à travers une date que vous ne connaissez peut-être pas, mais que je vais vous révéler, le 12 mai 1962. A tout de suite sur Sud Radio avec Serge Trigano.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge Trigano. Vous racontez la saga familiale et beaucoup d'autres choses dans un livre, Trigano Loves You, chez Albin Michel. Et puis, on évoque bien sûr votre carrière, mais aussi le parcours de votre père qui est exemplaire. Et il y a une date importante qui est le 12 mai 1962, elle ne vous dira rien, c'est sa première apparition à la télévision. Dans une émission qui s'appelait « Une visite à la Polynésie française » avec Jean Thévenot. Il est à côté de Gilles Berbit, son associé, et ils évoquent les besoins des Français en termes de vacances. Et il dit que les Français souhaitent découvrir le monde, mais aussi se détendre et se reposer. C'est-à-dire que ça correspond à sa philosophie des vacances.
Absolument. Je ne connaissais pas cette date, mais c'est une belle date.
C'est-à-dire qu'on est dans les années 50, les vacances, ce n'est plus seulement du tourisme, on a envie d'être assis quelque part, et c'est là l'idée de départ du Club Méditerranée.
Oui, l'idée de départ du club, l'idée des villages, c'est un lieu, c'est effectivement, vous avez raison, M. Pessis, c'est pas du tourisme. On s'installe dans un lieu, après on peut, si on l'a envie, découvrir le pays dans lequel le club est implanté, mais l'idée c'est, à l'intérieur de ce village, il y a une unité de temps, les gens restent 2-3 semaines, il y a une unité de lieu, le village, une unité de vie, avec un chef de village qui donne l'harmonie à ce village, et on fait du sport, on fait la fête, on rencontre des gens, on écoute de la musique, enfin voilà, et tout se passe dans ce village, tout est à portée de la main, il n'y a pas de voiture, donc ce n'est pas dangereux pour les enfants, c'est assez privilégié.
Et c'est innovant à l'époque, dans les années 50.
Surtout que c'est une formule de tout compris, c'est-à-dire qu'on sait exactement avant de partir ce qu'on va payer. Les seules dépenses supplémentaires, c'est les dépenses qu'on fait au bar, avec des colliers bar, qui est aussi une idée absolument géniale. Et donc tout ça procède de la même créativité.
Alors pour se faire connaître, il n'y a pas beaucoup d'argent, et je crois que le Club Méditerranée va se faire connaître avec des affiches dans le métro.
Absolument. Je crois que ça, c'est une idée de Gérard Blitz, de mettre des petites affiches dans le métro pour expliquer qu'on peut partir 3 semaines de vacances au Baléares pour une somme assez modique, parce que je crois que c'est l'équivalent de 345 euros d'aujourd'hui. Et l'idée de génie de Gérard, c'est pas seulement de faire les affiches, mais après 3 jours, de mettre un petit bandeau en marquant complet.
Oui.
Et ça, c'est le coup de génie, parce qu'effectivement, quand c'est complet, on se dit, si c'est complet, ça vaut la peine d'aller voir.
C'est ce qu'a fait Robert Derry quand il a créé Les Branquignoles, un spectacle célèbre au La Bruyère. Personne n'y croyait. Il avait sa femme qui était fille d'un boucher. Ils ont invité tous les commerçants de la capitale et ils ont marqué complet pendant 8 jours. Résultat, ça a été plein pendant 3 ans.
Très intelligent.
Et donc, finalement, c'est tellement complet qu'il y a des files d'attente sous la neige pour retenir sa place, Serge Trigano.
Oui, les premières années du club, toutes les années 50-60, c'était des années de folie, parce qu'il y avait une telle demande, on pouvait s'inscrire pour partir en vacances, il y avait l'ouverture de ce qu'on appelait des inscriptions, 2 fois par an, une fois pour les vacances d'hiver, une fois pour les vacances d'été, et donc il y avait un certain nombre de gens qui voulaient être sûrs d'avoir leur séjour dans le village, souvent avec le chef de village qu'ils avaient envie de suivre, et donc les bureaux ouvraient à 9h du matin, mais les gens passaient la nuit pour être sûr qu'à 9h du matin, ils seraient parmi les premiers à pouvoir s'inscrire et à partir en vacances dans le lieu qu'ils avaient choisi.
Même il y avait une tempête de neige, ça n'empêchait pas les gens d'être là.
On faisait la queue, on allait dans les cafés, le club faisait ouvrir les cafés aux alentours de la Bourse, la rue Thérèse, et les gens prenaient des cafés, on leur distribuait des bons pour avoir droit à un café et un croissant, et c'est incroyable, enfin, quand on raconte l'histoire, on ne peut pas la croire.
Non, en plus il n'y avait pas internet à l'époque, donc il fallait vraiment retenir sur place. Alors, la première année a été catastrophique, puisque je crois que le premier village, il y a eu une tempête qui a détruit le village au mois d'août.
Oui, en fait, la première année a été, pas catastrophique, elle a été exceptionnelle, mais il y a eu des catastrophes, dont effectivement, en plein mois d'août, une tempête qui détruit tout, les tentes, les cuisines, et ainsi de suite. Et là aussi, l'idée de génie de Gérard, c'est de réunir tout le monde, leur dire, écoutez, il y a 2 solutions, vous rentrez chez vous, on essaiera de voir avec les assurances si on peut vous rembourser, ou vous m'aidez à reconstruire le village. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les avocats qui auraient pris la main. Bon, et là, tout le monde se met à reconstruire le village, et en 3 jours, le village est reconstruit, et moi je dis que c'est l'esprit club qui est né ce jour-là, quoi.
Oui, et ils se sont retrouvés d'ailleurs en dehors du club pour faire la fête. Je crois que le 4 novembre 1950, il y a dans les bureaux une fête mémorable, Serge Trigano.
Oui, il s'était passé quelque chose, enfin, bien sûr, je n'ai pas vécu, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, il s'était passé quelque chose de magique, et les gens voulaient, de retour à Paris, continuer à vivre cette espèce de passion, d'amour et autres. Et donc, ils se faisaient des fêtes, pareil, dans les cafés des alentours, et ils restaient des nuits entières à se raconter leur vie, leurs vacances, faire de la musique, faire revenir des orchestres. C'est un truc de fou, quoi.
Il y a même quelquefois la police qui intervenait, craignant une manifestation.
Absolument. Un soir, alors je crois que c'était en 53 ou 54, il y avait tellement de monde à une des soirées que le commissaire est arrivé avec une équipe de CRS, et il a fallu lui faire comprendre que ce n'était pas une réunion interdite du Parti communiste, mais quelques GM qui faisaient la fête. Quoi.
Et puis, il y a eu un événement qui s'est passé un jour, lié à une chanson de Gilbert Bécaud.
Oui, j'irai dimanche à Orly.
Parce que en 61, l'aéroport sud ouvre, inauguré par le général de Gaulle, et c'est, on l'a oublié aujourd'hui, une vitrine de la France. Avant, Orly était un aéroport militaire dans les années 1920, et là, il y a des boutiques, il y a des cinémas, il y a des stars qui viennent se faire photographier, et il y a surtout une fête du club méditerranéen mémorable dans les hangars.
Le club cherchait un lieu qui pouvait accueillir, je ne sais plus, il y a eu plusieurs milliers de GM, plusieurs dizaines de milliers de GM, et on n'a rien trouvé de mieux que de prendre des hangars qui servaient à la maintenance des avions, on l'a aménagé, on a fait venir des groupes folkloriques d'Israël et de Tahiti, et il y a eu tellement de monde que l'autoroute du Sud a été bloquée toute la nuit, et que ça a été une panique complète au QG de surveillance de l'autoroute.
Ce ne serait pas autorisé aujourd'hui, tout
comment
ça
pas,
voilà. Et alors, votre père, comment est-il rentré dans l'aventure avec Gérard Blitz, Serge Trigano?
Mon père, il y a donc eu cette rencontre au début des années 50 avec Gérard, et Gilbert a été tout de suite pris par le magnétisme que dégageait Gérard Blitz et par cette aventure, et donc progressivement s'est détaché de l'affaire de camping pour s'intéresser à l'affaire du club méditerranéen, où il y avait une bande de joyeux copains, un peu délirants, qui n'avaient pas du tout le sens des affaires. Bon, et donc Gilbert a apporté un petit peu de rigueur là-dedans, et l'alchimie s'est passée, et Gilbert est tombé amoureux de l'aventure du club, et l'a complètement vécu avec Gérard.
Oui, c'est-à-dire que Gérard Blitz a tout de suite accepté que Gilbert soit son associé, il n'y avait même pas de conditions.
Non, ils sont mis d'accord. C'est le père de Gérard, c'est Maurice Blitz, qui a dit à Gérard, écoute, tu tiens là un mec de qualité qui va être ton support et qui est tout à fait complémentaire de tes talents de sportif. Et donc, il les a associés tous les deux, ils ont monté leur affaire à 50-50, et c'est comme ça qu'est partie l'aventure.
Alors, Gérard Blitz, c'était quelqu'un de très discret, à tel point que dans l'émission de télévision que je vous ai citée, bah, il parle à peine, et c'est Gilbert Trigano qui parle tout le temps. Et il va un jour partir et laisser complètement la place à Gilbert.
C'est ça. Gérard, le début de l'histoire du club l'a amusé, puis après progressivement, d'abord il a été complètement pris par le monde du yoga, il est devenu président de la fédération de yoga, il s'occupait beaucoup de yoga, et donc il s'est progressivement détaché du club.
Et Gilbert est resté donc comme le patron, et il a sauvé la trésorerie grâce à Edmond Rothschild, qui est venu dans l'aventure de façon très bizarre, je crois, Serge Trigano.
Oui, au début des années 60, le club avait été dans une situation financière un peu compliquée.
Parce qu'il n'était pas vraiment géré avant.
Oui, enfin, ils avaient un peu tendance à mélanger la trésorerie court terme et les financements long terme. C'est-à-dire que comme les GM payaient à l'avance les vacances, il y avait un peu d'argent dans la caisse, et donc ils ont fait toute une série d'investissements. Mais après, bon, c'est des investissements qui rapportent sur le long terme. Et donc, il y a eu un petit hiatus. Enfin, quand je dis petit, un vrai gros hiatus. Et donc, ils ont cherché qui pouvait les aider. Ils ont fait le tour des banques, et chacune des banques, les unes après les autres, leur ont expliqué que le club méditerranéen, ça marcherait jamais.
Ouais.
Et puis ils sont tombés sur un homme qui s'appelle Edmond Rothschild, qui venait d'hériter pour la troisième fois, qui était une des plus grandes fortunes d'Europe. Et Edmond était un homme exceptionnel, atypique, milliardaire complètement un peu déjanté, et qui, plutôt que d'aller dans les palaces, allait souvent avec son bateau dans des endroits où il y avait des villages du club, à Caprera, puis une fois se retrouver en Israël. Bon, et donc il connaissait un peu le club, et ça l'avait amusé. Et donc quand Gilbert est allé le voir, ça lui a raconté quelque chose.
Voilà. Et résultat, je sais que dans les soirées du club, incognito, anonyme, il chantait Sinatra.
C'était, ah oui, absolument.
C'était son bonheur.
C'est tout à fait vrai, ouais.
Alors, il s'est passé d'autres choses au club avec Gilbert et avec vous ensuite. On en parle dans quelques instants avec une autre date qui est une date importante, pas forcément liée au club mais indirectement, c'est le 1er novembre 1978. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Trigano.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge Trigano. Donc ce livre Trigano Loves You, ce sont les mémoires de la famille chez Albin Michel. Et puis le principe des clés d'une vie, ce sont des dates. Alors celle-là n'a pas de rapport direct avec le club, mais elle est importante pour l'image de club. Le 1er novembre 1978 est sorti ce film.
Pourquoi venez-vous au club ?
C'est-à-dire que mon mari et moi, on était assez réticents vis-à-vis du club, enfin le côté groupe, tout ça.
Ça vous fait rire, Serge Trigano, c'est les bronzés, bien sûr. Parce que quand on parle des bronzés, on parle du club et réciproquement.
Absolument, ça a été formidable caricature du club méditerranéen d'une certaine époque.
Au départ, il faut savoir que Christian Clavier et Thierry Villermite avaient été GM et GO au club. Yves Rousserroir, aussi le producteur, c'était l'oncle de Christian Clavier. Et quand il a vu la pièce, il a dit « je vais faire le film avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Marielle ». Ils ont dit « non, c'est nous ou personne ». Et c'est comme ça que le film est né. Ce film, vous l'avez vu bien sûr plusieurs fois. Ça fait partie de l'image du club.
Bien sûr.
Et ça n'a pas posé de problème, parce que finalement, c'est un peu moqueur, c'est caricatural.
Comme je le dis dans le livre, mon père n'a pas du tout ri à ce livre. Mon père, que je considère comme un génie, a un sens de l'humour mitigé, moyen. Ouais. Donc il pensait qu'on attaquait son œuvre et attaquait le club, ça lui a fait de la peine. Bon, il faut dire que tous les géos rigolaient et ont pris un plaisir fou à regarder ce film plusieurs fois.
Et qui a fait du bien, parce qu'encore aujourd'hui, quand on voit les bronzés régulièrement à la télévision, on pense au club.
Absolument.
Alors, il y a eu une suite, les bronzés font du ski, et ça tombe bien parce que finalement, l'image du club, c'est aussi les vacances de neige, et là, c'est né de façon très particulière, Serge Trigano.
Oui, au milieu des années 60, le club fonctionnait plutôt bien, mais il y avait un problème, c'est que l'hiver, il n'y avait pas d'activité, puisqu'on n'avait que des villages saisonniers d'été, et donc on n'offrait pas de travail aux géos, la trésorerie se vidait complètement, et Gilbert dit, il faut qu'on trouve le même concept qu'on a au soleil, à la neige. Voilà. Et donc on cherche un lieu où implanter la formule à la neige, pareil, même truc, beaucoup de difficultés, jusqu'au moment où un de nos collaborateurs se retrouve en Suisse, et se trouve face à un homme qui était en charge des installations dans une ville qui s'appelle Lézin. Dans le canton de Vaud, et qui avait pour vocation de guérir les gens qui avaient la tuberculose. La tuberculose avait disparu, donc les hôtels étaient vides, c'était une espèce d'hôtel sanatorium. Et donc ils se mettent d'accord, et le club implante son première installation à la montagne à Lézin, et ça a connu un succès incroyable.
Voilà, Gilbert Trigano rêvait de monter sur les planches, finalement il est allé sur des skis. Alors, il y a des traditions au club qui remontent à ses débuts. Il y a une tradition très, très bizarre, lorsque vous arrivez, enfin c'était au départ, on vous plonge avec votre costume sous une douche et on vous coupe votre cravate.
Oui, l'idée qui paraît être complètement inconcevable aujourd'hui. Enfin, pareil, on finit chez les avocats et les réseaux sociaux et c'est le cauchemar absolu. Bon, là, on est dans les années 50-60. Les gens ont fait 24 heures, 36 heures de voyage. L'idée, c'est qu'il faut une rupture totale et complète. Donc, on arrive, on est en costume, certains en cravate, assez rare, mais certains en cravate. Et donc, pour marquer la rupture, c'est tous les anciens, en fait. C'est même pas les géos, c'est les anciens GM qui sont là, qui ont passé une semaine ou 15 jours et qui initient les gens au monde de ce village, et donc on les fait, ils passent sous une douche, ils se font complètement mouillés, puis après on leur coupe la cravate, et puis la semaine d'après, ceux qui feront la même chose aux nouveaux arrivants.
Ouais, c'est une sorte de bizutage. Ouais,
absolument.
Et le coup de la cravate, c'est Patachou qui l'a expérimenté, je ne sais pas si vous le savez, dans son restaurant qui est célèbre, où elle a fait débuter Brassens et Brel. Un soir, un client, un fêtard triste, coupe la cravate de son voisin qui lui coupe sa cravate. Ça a tellement marché que chaque fois qu'un client arrivait, Patachou lui coupait sa cravate et la mettait au plafond. Et le plafond était débordant de cravates et les gens venaient pour se faire couper leur cravate.
Je connaissais pas l'histoire.
Alors, les GM, les GO, on en parle, mais finalement, comment c'est né, ces gentils membres et ces gentils organisateurs ?
Écoute, là aussi, la légende dit que à El Kudia, dans cette première saison, dès qu'il y avait un problème, Gérard Bliss leur disait « Vous êtes des gens gentils, c'est très gentil de votre part », et ainsi de suite. Et donc, le mot « gentil » s'est installé, et c'est comme ça qu'est parti le vocable « gentil membre ». Et tout naturellement, pour ceux qui travaillent, ils ont eu l'idée de « gentil organisateur ». Et c'est comme ça que le truc est parti.
Alors, c'était bien sûr des vacances, avec la fête totale et intégrale. C'est-à-dire qu'il y avait des spectacles le soir, Serge Trigano, avec notamment des costumes du Lido et du Casino de Paris.
Ah oui, on achetait des stocks de costumes au Casino de Paris, au Lido et autres, puisque on se déguisait. L'idée, c'était la fête, donc la fête, c'est aussi se déguiser. C'est bon, toute la journée, on était en maillot de bain et en pareo, et donc le soir, on était enfin en redingote, en robe longue. Enfin, c'est un truc complètement fou. Il faut dire que les années de la création du club, c'est les années, bon, Encore une fois, c'est l'après-guerre, c'est l'épanouissement, la libération de la femme, l'arrivée de la pilule. Voilà. Il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'on vit dans une certaine insouciance.
Oui, et cette insouciance, donc on en profitait, on se défoulait avec des choses qui, encore une fois, ne seraient pas possibles aujourd'hui. Il y avait aussi les spectacles de l'Alcazar de Jean-Marie Rivière qui étaient repris au club.
Absolument, et ces spectacles étaient réalisés par les Géos et par les GEM, puisque les GEM participaient aussi à la fête. Et donc on passait des jours, des nuits à répéter ces spectacles et c'était un grand moment de communion entre les organisateurs et les membres du club.
Voilà, l'Alcazar de Paris, ça a été avec Jean-Marie Rivière l'un des derniers symboles de la fête avant qu'on n'ait plus de pétrole. Et tous les soirs, c'était la fête là-bas, avec des spectacles totalement délirants. Il avait trouvé ce lieu par hasard, il était à Paris, il cherchait quelque chose, il avait poussé la porte d'une imprimerie en faillite. L'imprimerie était à vendre pour une bouchée de pain, et c'est comme ça qu'il a transformé en un lieu qui est devenu mythique.
Mythique, fabuleux.
Alors, vous parliez du Paréo, je crois, Serge Trigano, c'est devenu l'objet fétiche du club.
Oui, Gérard Bliss était marié avec une femme, Claudine, qui venait de Tahiti, et qui donc a importé à la fois la case polynésienne, puisqu'on est passé des tentes de camping Trigano à la case polynésienne, c'est elle qui a eu l'idée, et elle a importé dans ses bagages le Paréo, qui est devenu effectivement le symbole du club, des GO, puis des GM.
Et puis il y a eu l'invention du collier barre dont vous parlez, comment s'est né ce collier?
Alors pareil, la légende dit que Jean-Pierre Becquerel, un des fondateurs du club, un de ceux qui est dans l'histoire du début, et un jour dans un train, voit une fille s'amuser à enfiler des perles, et il se dit il y a peut-être un truc comme ça, et c'est comme ça qu'il a l'idée du collier barre, où chaque perle a une valeur donnée, et donc on n'a pas d'argent, puisque quand on vit en maillot de bain, c'est difficile d'avoir de l'argent, et donc ils ont l'idée de faire ce collier barre, qui a une certaine valeur, et c'est comme ça qu'est partie cette idée d'une monnaie assez extraordinaire, qui était atypique.
Oui, et tellement atypique que des faux monnayeurs s'en sont mêlés.
Absolument, puisqu'elles avaient des valeurs différentes selon la couleur, noire, dorée ou autre, et on s'est un jour aperçu quand des colliers traînaient dans un économat et que la pluie est tombée, qu'un certain nombre de très belles perles noires étaient en fait des perles blanches qui avaient été complètement trafiquées.
Il faut le faire, effectivement. Alors, naturellement, il faut des équipes, et les GO, les gentils organisateurs, il faut les trouver, et c'est pas simple d'engager des gens qui finalement pourront réaliser ces animations pendant tout l'été, Serge Trigano.
C'est pas simple, mais en fait, honnêtement, d'abord, très souvent, c'était des gens qui étaient en vacances, qui souhaitaient rester comme Géo, qui trouvaient que c'était un mode de vie tout à fait extraordinaire. Et puis après, on avait une équipe de recruteurs et de recruteuses, d'hommes et de femmes, qui cherchaient des talents, qui cherchaient à trouver des hommes et des femmes qui avaient des bonnes attitudes. On fait pas des métiers très compliqués, mais des gens qui ont envie d'être avec les autres, qui ont envie de servir les autres, de faire la fête avec les autres. Et moi, y compris aujourd'hui dans ma nouvelle vie, je dis que ce qui est important, c'est les attitudes dans notre métier. C'est le regard que vous portez sur les autres, et la force du club a été de recruter des garçons et des filles étonnants dans tous les coins du monde.
Oui, et même certains ont fait leur classe avant de devenir célèbres. C'est le cas de Patrick Bruel, qui a été Géo, et c'est le cas de Cadmera, de Jean-Luc Reichmann, et moi je me souviens de Vincent Lagaffe, oui, au club à Vittel, qui faisait des spectacles et qui ne pensait absolument pas faire carrière.
D'ailleurs, Vincent Lagaffe est en couverture du livre, il est en photo à côté du chef de village, et voilà, il y a aussi plein de talents qui sont venus comme ça.
Et puis, il y a quelqu'un qui a cru en vous aussi à l'époque où personne n'y croyait, c'est le roi du Maroc, Hassan II, Serge Trigano.
Absolument. L'aventure entre Gilbert et le roi du Maroc a commencé à Alhossema. Le roi du Maroc était alors simplement prince héritier. Il vient à l'inauguration du village d'Alhossema au début des années 60. Le terrain était extraordinaire, gigantesque, et le prince héritier dit à Gilbert, je comprends pas, ce terrain est énorme, il y a à peine une centaine de cases, il y a à peine 200 personnes, c'est pas normal. Et Gilbert lui dit, mais il faudrait qu'on ait un vrai aéroport pour arriver avec des avions, puisqu'à l'époque, il fallait se poser à Tanger ou à Casablanca, c'était un cauchemar. Et le prince héritier, l'année prochaine, vous aurez un aéroport. Et chose unique, ça nous est jamais arrivé depuis, c'est la première fois qu'un chef d'État respectait sa parole. On a l'année d'après un aéroport construit, et donc le roi sympathise avec Gilbert, et ils ont fait plein de choses ensemble.
Voilà, et il y en a eu d'autres d'ailleurs avec qui il a fait plein de choses. Il y a eu le Mexique aussi, et il y a eu Jean-Claude Duvalier à Haïti. Gilbert Trigano était le premier à faire quelque chose là-bas pour les vacanciers.
Oui, Haïti est une ville, est un pays magique, un climat incroyable, les gens sont d'une gentillesse formidable. Et donc, malgré la dictature, on a souhaité s'implanter là-bas. On avait fait un village qui avait très très bien marché avec des jeunes géo-haïtiens, haïtiennes extraordinaires. Puis après, la situation s'est radicalisée. On a dû fermer et malheureusement, on a dû partir.
Voilà. Il y a eu aussi une chose étonnante, c'est que le pape Jean-Paul II s'est intéressé à Trigano, Serge Trigano.
Enfin, c'est une histoire incroyable. Un jour, au secrétariat de mon père, il reçoit un appel, le pape veut voir Gilbert. Le mec dit, ok, c'est bien, le pape, il y a Napoléon et Louis XIV aussi, on se téléphone, on se fait une bouffée, donc on répond pas. Puis 8 jours après, la même personne appelle, on dit, écoutez, c'est pas une plaisanterie, sa sainteté souhaite voir le pape, souhaite voir Gilbert. Donc on enquête un peu, Gilbert se renseigne, utilise ses réseaux, effectivement, il apprend que c'est vrai, Jean-Paul II aimerait le rencontrer. Bon. On apprend qu'en fait, Jean-Paul II avait un coach qui était un GM du club, qui devait, je pense, pendant les balades en montagne, lui raconter l'histoire du club. Et donc le pape dit, ben, j'aimerais connaître l'homme qui est derrière cette histoire. Et donc on se retrouve un jour au Vatican, quelques semaines après, et on est aligné en rang d'oignon, en costume cravate, très chic. Et donc le pape arrive vers Gilbert, il lui dit, mais alors Trigano, c'est quoi votre métier? Et Gilbert dit, mais sa sainteté, mon métier consiste à réunir des hommes et des femmes du monde entier dans les plus beaux endroits et leur apporter un peu de bonheur. Et là, le pape lui dit, mais alors Trigano, on fait le même métier. Voilà. Je trouve ça formidable.
C'est effectivement un gros souvenir. Il y a eu quelquefois des choses plus difficiles, notamment avec Niarchos, un milliardaire, un armateur, qui s'est opposé à Gilbert Trigano. Et là, il a fallu ruser, Serge Trigano.
Oui, Niarchos estimait que Saint-Moritz, c'était sa ville à lui et qu'elle était réservée uniquement aux milliardaires. Et donc, quand il a entendu parler que Trigano voulait installer un club méditerranéen, il s'est dit, c'est la fin de Saint-Moritz, il n'y en avait pas question. Donc, il a tout fait pour bloquer nos projets. On avait une discussion sur un hôtel. Et donc, Gilbert a continué à discuter sur ce projet-là et envoyé en sous-main une deuxième équipe négocier un deuxième hôtel à Saint-Moritz. C'est alors que Niarchos s'est battu pour essayer de bloquer le premier projet. Le jour où il s'est réveillé, on avait signé le deuxième et le club s'est implanté. On a fini avec 3 hôtels à Saint-Moritz.
Voilà. Il faut savoir que Niarchos était tellement riche qu'il a eu le plus grand 3 mois du monde avec des œuvres d'art, dont la Jeune Avril de Toulouse-Lautrec à bord et un bateau équipé pour préserver ses tableaux de l'air. C'était incroyable. Et puis finalement, vous dites dans votre livre, Serge Trigano, que Gilbert Trigano aurait pu devenir ministre du Tourisme.
Oui, on lui a proposé, je crois, 2-3 fois d'être ministre du Tourisme, ce qu'il avait tenté. Ma mère l'en a dissuadé, en lui expliquant que ça rapportait pas assez, qu'il était mieux payé au club, et je crois qu'elle avait raison, qu'il avait plus de pouvoir en étant président du club qu'en étant ministre du Tourisme, et donc elle l'en a dissuadé.
Voilà, et il n'y a eu aucun regret de ce côté-là. Non. Et puis, je crois qu'il aimait la poésie avant tout, il a fait un apostrophe avec Bernard Pivot, ce qui a étonné tout le monde, parce qu'il a parlé poésie.
Mon père était un fanat de poésie. Tous les soirs, d'abord, c'est un fanat de lecture. Il lisait beaucoup. Et effectivement, les poèmes, il pouvait réciter des poèmes par cœur. Et donc, il s'est retrouvé un jour chez Pivot. Les gens ont du mal à croire que l'homme qui était derrière le Club Méditerranée et les Bronzés était amoureux de poésie, de Verlaine et de Baudelaire.
Voilà. Et bien, si Bernard Pivot faisait son émission aujourd'hui, il vous aurait sans doute accueilli pour ce livre, dont on va parler dans quelques instants à travers une autre date, le 1er octobre 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Trigano.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Serge Trigano. Je vous ai parlé de ce livre, Trigano Loves You, qui sort chez Albin Michel, qui sont les mémoires de la famille, la saga familiale. Pourquoi avoir décidé de l'écrire, il est paru, je le rappelle, le 1er octobre 2020. Pourquoi avoir décidé de l'écrire, Serge Trigano?
Écoutez, c'est un de mes fils qui m'a dit qu'il fallait l'écrire, Benjamin, le fils qui vit aux États-Unis. Et j'ai trouvé l'idée séduisante. D'abord, ça me permettait de rendre hommage à mon père, de rendre hommage aux Géos, à ma mère, enfin, à tous ceux qui m'ont aidé dans ma vie. Et je trouvais que c'était bien de marquer, de raconter un peu l'histoire et d'expliquer ce qu'était la vraie histoire du club et de notre famille à travers ce club et de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas uniquement la nostalgie d'un passé, il y a en même temps ce qu'on est en train de faire et avec mes fils.
Ce qu'on va, dont on va parler aussi. Mais Gilbert n'avait jamais voulu écrire ses mémoires, c'était la discrétion même.
Oui, Gilbert, on pensait que s'il écrivait ses mémoires, c'était vraiment la fin. Et oui. Donc il n'aimait pas. On avait écrit un premier livre dès qu'on a quitté le club, mais qu'il n'a pas cautionné, ça ne l'a pas intéressé, ainsi de suite. Voilà, et donc j'ai tenu à l'écrire pour lui.
Avec des documents photographiques inédits que vous aviez conservés.
Absolument.
Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Des photos que personne ne connaît. Alors finalement, le titre Trigano Loves You, ça résume le bonheur des vacances en toute liberté.
Oui, je crois que la marque de fabrique de la famille, que ce soit à l'époque du club ou aujourd'hui, c'est une espèce de relation affective, c'est une relation d'amour. Voilà, les vacances, la fête, un bon repas et autres, c'est un moment de bonheur, c'est un moment privilégié. C'est ça qui nous a amusés et c'est ça qui a drivé toute notre vie. Quoi.
Voilà, ça a été dans l'Europe entière, mais aussi aux États-Unis, parce qu'un journaliste tout à fait anonyme s'est glissé au club un jour et a fait 10 pages dans le magazine Life.
Oui, c'est une histoire incroyable. C'était encore une fois dans les années 70. Hein. Bon, il y a un gars qui se présente dans les bureaux de la bourse et qui demande à être invité dans un village du club. On n'avait pas de service de presse, il n'y avait rien. Bon, du bout des lèvres, on l'envoie 15 jours dans un village du club, on n'entend plus parler de lui, puis il revient 2 mois après. Hein. Est-ce que je peux repartir ? On trouve qu'il exagère un peu, mais enfin, on le fait repartir. Puis on n'entend plus jamais parler de lui. Et puis un jour, en pleine nuit, le patron d'American Express aux États-Unis appelle Gilbert en disant « Écoute, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a Life Magazine qui paraît demain, je l'ai entre les mains, il y a 12 pages sur le club, c'est un reportage inimaginable, dithyrambique. » Et donc, de ce moment-là, l'aventure du club explose. Gilbert part en courant en Guadeloupe acheter un hôtel pour ouvrir quelque chose en catastrophe, avec des gens qui ne parlaient pas anglais, enfin, dans un joyeux bordel. Et puis, il met en construction un village au Boucanier, en Martinique, et c'est le début de la conquête du marché américain.
Grâce à ce journaliste.
Ça serait arrivé, mais ça a accéléré les choses.
Voilà. Et puis, dans ce livre, vous racontez absolument tout, les bonheurs comme les malheurs, et vous racontez une scène, Serge Trigano, digne d'un film culte. Car vous avez vécu la scène du parrain en direct, parce que un matin, vous êtes réveillé, et puis ça a été dehors.
Oui, un jour, les Agnelli, qui étaient les actionnaires de référence, avaient décidé de me dégager, de me virer. Bon, ce qui est la vie, c'est la vie d'une entreprise, c'est comme ça, c'est les actionnaires qui décident. Et c'est pas les managers, que ce soit fils ou pas fils d'un des fondateurs. Voilà, donc ça se passe comme ça. Et il y a un conseil d'administration qui doit entériner cette décision. Et le représentant du groupe Agnelli, qui est M. Gabetti, demande à me voir en tête-à-tête dans le bureau. Mon père vient avec moi. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est une scène du parrain. Quoi. Le mec est d'une violence incroyable. Il avait compris que j'avais un petit peu saisi ce qu'ils avaient fait en sous-main pour me dégager. Et il me menace de me briser partout où j'essaierais de rebondir. C'est un monsieur très beau, très, très belle gueule, mais très dur. Enfin, voilà. Et donc, c'est très violent, c'est très dur. Et ça dure quelques minutes. Et plus il est dur et plus je rigole parce que c'est tellement énorme que ça peut plus me faire peur. Je suis viré, donc il peut plus rien faire. Voilà. Puis après, le conseil a lieu. On entérine mon départ. Et effectivement, il a fait pas mal de choses pour bloquer l'idée de repartir.
Voilà. Et en même temps, c'est un traumatisme. Parce que, bon, pour vous comme pour votre père, Serge Trigano.
Oui, parce que pour mon père, c'était toute sa vie. Moi aussi, j'avais 50 ans à l'époque. Moi, mes 20 premières années, je les ai vécues dans le club, en vacances, en géo, à l'écoute des récits de mon père. Et après 30 ans à travailler au club, le jour où on vous dit que c'est fini, c'est vrai que c'est un peu dur. Et encore une fois, c'est ce que je dis, comme toutes les belles histoires d'amour, ça se termine souvent assez mal. Et celle-là se termine très très mal et très violemment.
Oui, et c'est un traumatisme dont on pourrait ne pas se remettre.
Oui, mais là, ce qui compte, c'est la structure familiale. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme solide, d'avoir 2 fils extraordinaires. À l'époque, il y avait mes parents, Gilbert, qui n'a pas un mot, qui me dit, écoute, c'est fini, on va faire autre chose, quoi. Voilà. Et donc, ça compte parce que tous les amis que vous avez disparaissent les uns avec les autres, toutes les fausses relations que vous avez créées quand vous êtes président du club, les gens sont prêts à tout pour obtenir une faveur de votre part, une place, un séjour et ainsi de suite. Bon, et puis du jour au lendemain, vous comptez plus du tout.
Exactement. Alors, il se trouve qu'en plus, en lisant votre livre, on comprend, Serge Trigano, que c'est pas toujours simple de travailler au club. Vous avez débuté au bas de l'échelle comme réceptionniste et ça s'est très mal passé.
Ouais, c'était un peu compliqué. Bon, mais c'était en même temps tellement drôle. Bon, moi, j'étais à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, donc être géoplanning à l'époque, on appelait ça comme ça, à la réception, ça consistait à avoir des petites fiches, des roses et des bleus, des roses pour les femmes et des bleus pour les hommes, et à placer les petites fiches au sein des cases. Et comme j'étais très mauvais, nul et mal organisé, à la veille du 15 août, qui est le moment suprême où il y a 1300 personnes dans un village qui peut en accueillir 1200, c'est la panique complète. Et donc, j'aurais dû être viré. Heureusement, le chef de village était un type exceptionnel qui a accepté de me garder et ça a été le début de mon aventure au club.
Voilà. Et vous avez aussi été géo dans une station mythique, c'est Corfou, qui a été la base du club.
Corfou, pour moi, c'est un des grands villages mythiques. C'était un des villages mythiques du club, puisque malheureusement, il n'existe plus. Voilà, c'est Gérard qui avait trouvé ce site, une oliveraie extraordinaire, des arbres, une forêt, un bord de mer, et tout le mythe gréco-tahitien. C'est un mélange folklorique de musique tahitienne, de musique grecque, de sport, de ski nautique offert à tout le monde, et ça a été un des grands villages du club.
Voilà. Il faut savoir qu'à Corfou, il y a un James Bond qui a été tourné avec Roger Moore, c'est rien que pour vos yeux, et que Sissi, l'impératrice, s'est cachée pendant plusieurs mois à Corfou pour échapper à la cour d'Autriche qui lui en voulait.
Je savais pas.
Voilà. Et puis alors, vous êtes devenu directeur des opérations mondiales, ça veut dire beaucoup de voyages aussi, Serge Trigano.
Oui, ça c'était la partie la plus formidable, je veux dire honnêtement. Hein. À l'époque, visiter les villages, visiter les pays, on était reçus partout. Il n'y avait pas du tout les conditions de sécurité qu'il y a aujourd'hui. On montait dans les avions comme on voulait, on passait pas de douane, pas de police, pas d'immigration. On visitait des villages, c'était des grands moments de bonheur. On allait négocier avec des partenaires locaux. Le club était plutôt bien reçu, pas plutôt, bien reçu partout. Voilà, il y avait une cote d'amour extraordinaire qui entourait le club.
Et puis il y a eu un centre de formation à Pompadour, où il y a beaucoup de chevaux, vous l'avez créé, et un jour Coluche est venu, Serge Trigano.
Coluche est venu, alors il n'est pas venu à Pompadour, il est venu à Paris un soir, et moi c'est une intervention qui m'a beaucoup marqué, moi j'ai bien sûr un fan de Coluche, et on avait réuni les chefs de village et les animateurs, et Coluche, qui connaissait le club parce qu'il avait une maison en Guadeloupe et venait souvent voir le village de Guadeloupe, a expliqué à quel point ça pouvait être difficile de faire des spectacles gratuits à une population qui est la même tous les soirs et de faire des spectacles différents tous les soirs. Et il a eu un discours d'une gentillesse, d'une bienveillance assez exceptionnelle vis-à-vis des équipes en leur donnant quelques idées pour être les plus créatifs possibles.
Et Coluche était installé effectivement à la Guadeloupe, sur la côte ouest, ça s'appelle le Morneau Fou et c'est emprunté à des oiseaux qui s'appellent les Fous Masqués. C'est l'actualité aujourd'hui. Alors finalement, vous êtes parti. Il a fallu rebondir. Ça n'a pas été simple au départ, Serge Trigano.
Non, ça n'a pas été simple parce que en France, à la différence, aux États-Unis, quand vous êtes viré d'une boîte, on considère que c'est presque un avantage que vous allez apprendre de vos erreurs. Bon, en France, vous êtes marqué au fer rouge et donc si vous avez été viré, c'est que vous êtes un nul, un incompétent et donc les banquiers vous font pas confiance, les amis disparaissent et c'est très difficile de repartir, que ce soit pour moi ou que ça a été pour, c'est le cas, je pense, pour des millions de personnes.
Et puis un jour, vous avez fini par avoir une idée avec vos deux fils, Benjamin et Jérémy.
Oui, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à imaginer. D'abord, au début, on voulait refaire un village de vacances. Puis après, on s'est dit à la fois parce que les Marocains n'ont pas respecté leurs engagements, et puis parce que on s'est dit qu'en fait, c'était plus intéressant d'aller sur un territoire nouveau et qu'il y avait quelque chose à imaginer dans l'hôtellerie de ville.
Parce que ça n'existait pas vraiment à l'époque.
Non, à l'époque, enfin, on parle de ça. Il y a une quinzaine d'années, un hôtel, c'était un lieu qui était un peu fermé sur l'extérieur. On venait pour y dormir, on y mangeait rarement. On n'y faisait jamais la fête, en tout cas en Europe, en France, c'est moins le cas aux États-Unis et en Asie. Et on s'est dit pourquoi ne pas inventer un lieu dans lequel justement on pourrait prendre un plaisir à écouter de la musique, faire la fête, manger, ainsi de suite. Et c'est un peu comme ça, en faisant rentrer l'énergie de la ville, en faisant en sorte que les gens de la ville viennent dans ce lieu, ce qui n'était pas le cas jusqu'à l'arrivée du Mama Shelter. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du Mama.
Alors Mama Shelter, pourquoi? Parce que c'est les mamans, c'est...
Parce que Shelter, c'est la notion de l'abri qui est ouvert à tout le monde. Et maman, c'est la femme qu'on aime le plus au monde, qui est là, qui la maman italienne, la maman juive, qui vous donne à manger même quand vous n'avez pas faim, qui vous nourrit, qui vous remonte le moral, qui vous tape sur la tête si vous avez un peu la grosse tête. Et donc, on a trouvé que Mama Shelter, ça pouvait fonctionner. Au début, tout le monde a dit que c'était une énorme bêtise, ça prendra pas. Et la marque a connu un formidable retentissement.
Oui, je crois qu'il y en a 13 aujourd'hui.
Il y a 13 Mama Shelter aujourd'hui et il y en a 7 en construction.
Alors, au départ, la première fois, vous avez eu très peur. Vous avez fait appel, je crois, à Philippe Stark.
Absolument.
Grand nom. Ça, c'était pas évident au départ.
Non, c'était pas évident parce que, encore une fois, j'avais été viré du club, donc c'est pas très bon. Deux, on voulait faire un hôtel en plein 20e arrondissement, alors que la règle d'or de ce métier, c'était location, location, location. Ce qui compte, c'est l'emplacement où vous êtes. Donc quand vous dites à des financiers que vous allez vous mettre en plein cœur du 20e arrondissement, ça les fait éclater de rire. Et puis troisième argument, c'est où on fait de l'hôtellerie, où on fait de la restauration, mais on fait pas les deux en même temps. Et nous, on avait décidé de faire les deux en même temps. Donc il y avait tout un ensemble de choses qui faisaient qu'on avait aucune chance de pouvoir bâtir le financement.
Et finalement, ça a marché. Les gens sont venus immédiatement. Et vous avez aussi innové avec des iMac dans les chambres.
C'est ça, on a longtemps discuté de savoir si on allait mettre des télévisions dans les chambres, et puis on a mis l'iMac qui permettait d'avoir l'Internet, d'avoir la télé, de se prendre en photo, et donc les gens se prenaient en photo. Et d'ailleurs, un jour, on sortira le livre des photos interdites, parce qu'il y a des photos qui valent leur redoudou et qui valent leur pesant de cacahuètes, parce que les gens prennent un masque et peuvent prendre toutes les poses qu'ils veulent, et c'est assez magnifique.
Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le nom iPod et iMac, au départ, a été refusé à deux reprises par Steve Jobs. Il n'en voulait pas. Et le patron de l'agence, Ken Segal, d'une agence TWA, a été surpris lorsqu'il a découvert que le nom avait finalement été pris. Et alors, il y a aussi la cuisine. Et la cuisine, vous avez fait appel à l'époque à quelqu'un qui a disparu aujourd'hui, mais qui était un grand chef, pas comme les autres, avec son caractère, qui était Alain Sandrin.
Une des chances de notre vie. Moi, je raconte que les chances de ma vie, ça a été de rencontrer Philippe Starck, de rencontrer Alain Sandrin, qui était un de ces grands chefs mythiques, qui était un des premiers à avoir qui a rendu sa troisième étoile en disant « je ne veux pas rester enfermé dans ce système-là ». Et quand on est allé voir Alain Sandrin, on lui a expliqué ce qu'on allait faire, le quartier, ainsi de suite. Donc Alain est venu visiter le site. On lui a raconté, Cyril, mon associé, mes deux fils, moi, Philippe Starck, et il a tout de suite dit « moi, je joue avec Joe », et ça a été formidable parce qu'il a fait un travail époustouflant.
Et parmi les innovations d'Alain Sandrin, il y a le verre au vin avec chaque plat, c'est lui qui a inventé ça, qu'on voit dans tous les restaurants aujourd'hui. Alors, ça veut dire aussi que la relève est assurée pour les voyages d'avenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes d'affaires peuvent venir dans ces lieux, c'est tout à fait nouveau, c'est le tourisme de demain, presque le tourisme professionnel.
Oui, parce qu'ils peuvent venir, d'abord on peut venir quand on est un homme ou une femme, on est seul, et très souvent c'est assez ennuyeux quand on descend seul dans un hôtel, on a peur d'être embêté, ainsi de suite. Au Mama, personne ne vous embête, on a d'ailleurs une population féminine très importante, parce qu'elles savent qu'on ne va pas les ennuyer, elles n'ont pas à manger dans leur chambre un repas insipide devant un programme de télé qui n'est pas très, très florissant, et donc là on peut descendre, on peut vivre dans le Mama, autour de ce bar, de ce lieu de vie, et ça a été une révolution dans l'hôtellerie française.
Ça veut dire que le monde du tourisme a changé et il va encore évoluer.
Oh oui, ça va continuer à évoluer. Là, encore une fois, on est sur un monde où on perd moins longtemps en vacances, on prend des vacances plus courtes. C'est pour ça que nous, on a joué sur ce qu'on appelle les city breaks. On peut aller passer 48 heures à Rome, à Milan, à Barcelone, à Berlin. Enfin voilà, se passer dans des villes pour aller voir une exposition, écouter un concert, voir un match de foot avec les gens qu'on aime, avec sa femme, ses enfants. Et c'est comme ça que c'est parti.
Voilà. Ou lire un livre, par exemple, Trigano Loves You, qui est paru chez Albin Michel. Merci d'avoir si bien raconté cette saga familiale. Et tous mes vœux pour que l'avenir se présente aussi bien qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Monsieur Pessis.
Merci à vous. Eh bien, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. À bientôt. Et puis, bien sûr, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.